Et salut à tous, c'est Daz. Comme vous le savez, la saison du podcast de Monte-le-Son est terminée, mais on a pensé à vous, fidèles auditrices et auditeurs, qui vous sentiriez un peu seuls sur les plages bondées. Chez Monte-le-Son, on se réclame du web 2.0, quand tout était plus simple et spontané. Et aussi, chez Monte-le-Son, on a une tradition dans le podcast qui est la recommandation. Alors pour marier web 2.0 et recommandation, on va pas vous partager une playlist de free jazz atonal ouzbek comme Salman les affectionne, mais on va vous recommander un autre podcast. Et pas n'importe quel genre de podcast, puisqu'il s'agit d'un podcast musical. Et pas n'importe quel podcast musical, puisque c'est Radio Cassette. Radio Cassette, c'est un podcast présenté par Manu, Olivia, Greg et Fanny qui va diguer dans les souvenirs d'ados de l'équipe pour en sortir un album marquant et en discuter pendant des heures. Ça s'appelle Cassette, donc vous aurez compris que ça va pas parler de Taylor Swift ou de Gims, mais plutôt de Madonna, Jamiroquai, Pearl Jam ou NTM. Le grand écart est constant puisque l'équipe passe en détente de R à Mylène Farmer, des Chemical Brothers au To Be Free en passant par Marilyn Manson ou les Beastie Boys. L'épisode qu'on vous recommande aujourd'hui parle de The Downward Spiral de Nine Inch Nails, un album sorti en 1994 qui, de l'avis de tous les experts, se marie parfaitement avec la période estivale caniculaire qu'on traverse. Big up à la team Radio Cassette, bonne écoute à vous et on se retrouve à la rentrée. Tchuss!
Cassette, la bande son des 90s.
Bonjour, bonsoir, c'est Manu et je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode de Radio Cassette. Ici, on rembobine nos cassettes et on vous raconte l'histoire inédite des albums qui ont marqué les années 90. Aujourd'hui, direction la Californie pour parler de l'album le plus violent et viscéral de la décennie, The Downward Spiral de Nine Inch Nails. En 94, Trent Reznor s'enferme au 10050 Cello Drive, la maison où Sharon Tate a été assassinée en 69, qu'il transforme en studio. C'est là, entre les murs chargés d'horreur, qu'il va composer un album concept brutal sur l'autodestruction. Un voyage sonore sans concession, mêlant rock industriel, métal et ambiance électronique oppressante. Avec des titres devenus iconiques comme March of the Pigs, Earth et bien sûr Closer, The Downward Spiral va propulser Nine Inch Nails au sommet des charts, atteindre la deuxième place du Billboard US et devenir quadruple disque de platine. Mais c'est surtout à Woodstock, en 94, couvert de boue devant 350 000 spectateurs, que Nine Inch Nails va littéralement voler le show et transformer leur performance en moment culte de l'histoire du rock. Mais comment un disque aussi noir et radical a pu devenir un tel phénomène de masse? C'est ce qu'on va vous raconter dans cet épisode. The Downward Spiral, on en parle tout de suite maintenant avec le Cassette Crew, Fanny.
Hello.
Greg Cook.
Salut tout le monde.
Et Olivia.
Hello.
Alors au sommet de l'émission, on va retrouver Olivia. Olivia, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Eh bien, tout simplement de dépression et de bain de boue.
Voilà, ça va être sympa. C'est ce qui vous attend pour les prochaines heures. Et toi Greg, tu vas nous parler de quoi dans cet épisode?
Moi je vais vous emmener sur les collines de Beverly Hills et je vais vous parler du home studio le plus cher du monde.
Yes. Et en fin d'émission, on retrouvera Fanny.
Moi je vous préviens, je crois que ça va être ma chronique la plus crade depuis le début de Radio Cassette.
Donc, je suis très jouie.
Âme sensible, s'abstenir.
Allez, c'est parti, enfilez vos cuirs et vos Doc Martens, on va se réécouter l'album en mode Fast and Furious.
We'll be right back.
Voilà, oh là là là, voilà pour les 14 titres de The Downward Spiral. Tous écrits par Trent Reznor. Alors l'édition japonaise de l'album, elle contient un titre bonus, une reprise de Dead Souls de Joy Division, qui était originellement sur la bande originale du film The Crow. The Crow, vous vous souvenez?
Ah oui, 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 tout à fait. Ouais.
Ce truc bien gosse. Ouais,
ça va bien avec.
Ah ouais, je l'ai regardé hier soir.
Mais c'est vrai? Non. Pour préparer l'émission?
Ouais.
Oh non.
Ah ouais. Je l'avais jamais vu. Je me dis, c'est le cas. Ça fait très longtemps que je voulais le voir. Et le scénario est nul, mais, mais visuellement.
T'as kiffé.
J'ai bien kiffé.
Tu
moi, je l'avais vu enfant.
Allez,
ouais, bah c'était bien, c'était vachement bien. C'est que j'ai.
Alors l'album sort le 8 mars 94 en CD, cassette et vinyle double sur le label Nothing Records, créé par Reznor lui-même et distribué par Interscope Records. Vous vous souvenez, la maison de disques la plus dingue des 90s, celle de Dr. Dre, de Marilyn Manson, No Doubt et bientôt de Eminem. Alors, 94, c'est une année charnière pour le rock alternatif. En avril, Kurt Cobain se suicide, laissant un vide immense dans le cœur de Fanny, coucou, que des groupes comme Nine Inch Nails vont contribuer à remplir. Cette année, Benny voit aussi sortir Grace de Jeff Buckley, Dookie de Green Day, Korn du groupe Korn, et le premier album de Marilyn Manson, produit sur le label de Reznor. Tiens, tiens. Alors, en France, en 94, on passe un samedi soir sur la Terre en compagnie de Francis Cabrel.
Direct, c'est pas la même ambiance.
Non, c'est pas tout à fait pareil. Qui reste numéro 1 pendant 29 semaines, c'est un truc de ouf. MC Solar, il sort Pros Combat. IAM explose avec Je danse le Mia. Et Billy the Kick fait délirer tout le monde avec Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi.
Ouais, les Américains, ils ont Grace de Jeff Buckley et nous, on a Billy the Kick. Cherchez l'erreur.
Pas de French bashing, s'il vous plaît.
Alors au cinéma, c'est le Roi Lion qui cartonne avec 10 millions d'entrées et Tarantino reçoit carrément la Palme d'Or à Cannes grâce à Pulp Fiction. Allez, on va commencer par embouiner vos souvenirs et faire un petit tour de table. On va commencer par toi, Fanny. Ça t'évoque quoi, Nine Inch Nails?
Alors mes souvenirs les plus lointains, c'est l'adolescence. Je fais partie d'un forum communautaire sur lequel je poste des poèmes gothiques. Et là, je rencontre tout un tas de gens. Avec qui je deviens un pote et qui me font découvrir beaucoup de musique. Et c'est à ce moment-là que je m'intéresse donc à la scène gothique et un peu à tout ce qui est musique sombre. Donc j'explore tout ça. J'écoute les Cure en boucle et The Smiths. Et donc je découvre Nine Inch Nails.
Tu te déguises en corbeau dès que tu sors de chez toi?
Non, mais j'ai des Doc Martens montantes Bordeaux.
Ok. Voilà.
Plus tard, Nine Inch Nails, ça m'évoque la bande originale de The Social Network.
Ouais.
Et le souvenir le plus récent, c'est la fête de ton anniversaire, puisque donc j'ai rencontré un de tes potes, Rémi,
à qui
on fait coucou.
Gros fan de Nine Inch Nails.
Avec qui m'a demandé expressément qu'on fasse Nine Inch Nails dans Radio Cassette, ouais. Et qui, à un moment dans la soirée, très tardivement et en état d'ébriété, est allé genre couper la musique qui était sans doute trop joyeuse à ce moment-là et qui allait mettre Closer de Nine Inch Nails.
C'était Daddy DJ, puis on est passé sur Closer.
On est passé sur Closer et moi j'ai kiffé. Voilà.
Apparemment, Manu se souvient pas. Hein, donc...
Mais il devait être 4h du mat, donc c'est normal.
Et on lui dédie cet épisode et il vous embrasse, Rémi. Alors toi, Greg, qu'est-ce que ça t'évoque Nine Inch Nails?
Moi, le premier truc que j'ai vu, déjà, c'est le logo, qui était un peu intriguant. Tu sais, tu le voyais un petit peu dans les
magasins. Bien symétrique.
Ouais, ouais, ouais. Ouais.
Après, j'ai vu le clip de Perfect Drug sur MTV, je pense. Et là, ça m'a claqué parce que je trouvais que c'était vraiment un son original. J'ai acheté le disque. Je pense que j'ai acheté le disque à ce moment-là. Mais c'était pas toujours facile à écouter. En revanche, comme j'étais un peu snob, tu sais, ça faisait bien d'écouter Nine Inch Nails parce que tout le monde n'écoutait pas, tu vois.
Carrément.
Ouais, c'était pas facile à écouter quand même à l'époque.
J'étais forcé un peu.
Et après, j'ai enchaîné avec Fragile. Celui-là, je l'ai beaucoup, beaucoup écouté parce qu'il était un peu plus facile à écouter. Et puis voilà, quoi.
Ok, donc un fan de la première heure. Et toi, Oli?
Alors moi, en 94, j'ai écouté Le Roi Lion, justement.
Ah ouais, hein, voilà. Très sympa. Hakuna Matata.
Bien sûr, voilà. Donc... évidemment que je n'écoutais pas du tout Nine Inch Nails en 94. Mmh. C'est venu un petit peu plus tard, mais aussi d'abord le logo. Tu sais, on voyait les patchs sur les Eastpak des grands du lycée et on trouvait ça hyper radical. Enfin, moi, je me souviens, c'était un truc genre « Oh, waouh !» Et c'est le logo qui m'a... c'est mon premier souvenir du groupe, je pense. Et après... autant j'ai eu ma période un peu goth, un peu rock, etc. Mais je suis jamais allée beaucoup plus loin avec Nine Inch Nails. Je connais un peu, mais j'ai jamais été fan. Voilà.
Ok, t'es jamais passé à l'acte.
Non, alors pour ceux qu'à présent, je ne sais pas si le mot est bien choisi.
juste pour petit disclaimer, pour revenir là sur ce logo dont vous avez parlé tous les deux, donc c'est NIN, c'est l'acronyme. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que certainement pendant l'épisode on va dire NIN,
oui,
au lieu de Nine Inch Nails pour abrévier, parce qu'en France on dit NIN. Voilà.
Ouais, moi ça me va.
Très bien, NIN.
Moi ça me va. Bah moi ce logo il m'avait marqué aussi. Moi c'était aussi, le premier souvenir que j'avais, c'était dans Daria. Vous vous souvenez de dessin animé?
Bien sûr, j'adore. Ah ouais.
Le copain de Daria, il avait un t-shirt Nine Inch Nails et vous savez comment il s'appelait le pote de
Trent.
Daria? Il s'appelle Trent.
Trent.
Yes, je vais vérifier l'info. Donc effectivement, et son groupe de rock il s'appelait Spiral.
C'est le frère de la pote de Daria. Non
ouais, sans doute.
Ouais.
Sans
d'ailleurs, doute. Comment elle s'appelle déjà, j'ai oublié, c'est pas grave. Je me souviens très bien.
Ouais. Et puis la première fois que j'ai entendu Nine Inch Nails, c'était dans la BO de Lost Highway, sur la scène d'ouverture qui est complètement dingue, mais ça c'était beaucoup plus tard. C'était,
mais c'est justement
dans les années 2000.
La chanson.
Je crois bien, ouais, je crois que c'est celle-là.
Ah oui, c'est ça, absolument. Ouais.
Alors aujourd'hui, on plonge dans un album qui a traumatisé autant qu'il a fasciné toute une génération, un disque qui a transformé un geek introverti au fin fond de la Pennsylvanie en véritable figure messianique du malaise version 90s.
Alors, avant de devenir la BO de tous les ados en Doc Martens qui séchaient les cours de maths pour écrire des poèmes sur la mort...
Ah bah ça c'était moi.
Coucou Fanny.
Eh ben, pas mal de chemin a été parcouru. The Downward Spiral naît au tout début des années 90, dans un moment où Trent Reznor, le cerveau derrière Nin, sort lessivé mais exalté de la tournée de Lollapalooza. Les concerts tournent à la performance extrême, il se mutile, détruit tout sur scène, se bat avec les autres membres du groupe. Le biographe Tommy Udo raconte que lors d'un show, il a fracassé une guitare sur le clavier et un éclat est allé se planter dans la tête de James Woolley, le claviériste.
Trépanation gratuite.
Intense quand même.
Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vendre des disques, hein?
En tout cas, voilà l'état d'esprit du bonhomme au moment où il décide de se lancer dans le grand projet d'un album plus introspectif.
Alors donc ce gars, il revient de Lollapalooza, il détruit 20 guitares par soir, il se démaquille avec du gravier et il se dit tiens, je vais faire le disque de ma vie.
Oui, alors bien sûr, tout ça est évidemment un poil plus compliqué, mais avant de parler de sa santé mentale, revenons rapidement sur son parcours. C'est un enfant qui a grandi dans la Pennsylvanie rurale, élevé par ses grands-parents, introverti façon « je peux passer 6 heures à jouer du piano sans parler à personne ». Et avant de devenir le prophète de l'Indus, Reznor a quand même fait ses armes dans plusieurs groupes locaux, notamment Slam Bamboo, un projet pop-rock 80s typique de l'époque.
Il tapait sur des bambous et c'était numéro 1.
Il slamait des bambous.
En tout cas, je résiste pas à l'envie de vous faire écouter House on Fire, plus ou moins live à la télé locale de Cleveland. Nous sommes alors en mars 1986.
Scene Magazine says about our next guest, this band has everything it takes to make it big. Doing their single now called House on Fire, let's welcome Slam Bamboo.
Waking up to you.
Vient de loin là quand même.
Ouais.
Je découvre qu'il faisait partie de Wham.
Il faut vraiment aller regarder les vidéos parce que le look est improbable. Hein.
Ah, wow. C'est génial.
J'irai voir.
Mais ceci dit, c'est déjà très pro. Hein. Je sais pas quel âge il a à cette époque-là, mais c'est bon, c'est pro quand même.
Alors le problème de Reznor, c'est qu'il veut tout maîtriser. Jouer en groupe, c'est pas trop son truc. Alors il apprend plusieurs instruments, devient technicien de studio, puis finit par enregistrer seul des morceaux entiers la nuit dans un petit studio de Cleveland. Il se cherche un nom de scène aussi. Rien ne va. Finalement, il garde Nine Inch Nails parce que ça sonnait bien et que c'est facile à abréger en NIN. N-I-N. Aucune métaphore sexuelle, aucune référence christique, juste un nom qui claque. Ouais, je sais, la réalité est toujours décevante.
Donc le mec, il fait un groupe tout seul en fait.
Exactement, et ce sera par la suite son mode de fonctionnement. Après l'enregistrement de chaque album en solo, Reznor recrute quelques musiciens pour jouer sur scène avec lui. La formation change à chaque nouvelle tournée.
Alors Reznor sort donc Pretty Ape Machine en 1989 sous le label TVT Records, qui trouve l'album abrasif et le compare à un avortement.
C'est aussi la période où Nin fait sa première télé, et c'est assez improbable. On n'est pas sur MTV ni dans un club indus, il joue dans Dance Party USA, l'équivalent américain du Dance Machine, un plateau saturé de brushing, de néon et de danseurs trop enthousiastes. Reznor l'a raconté lui-même sur Twitter.
Au départ, c'était comme une blague. On avait cité cette émission comme le truc le plus absurde où apparaître. Quelques jours plus tard, notre manager nous annonce « ça y est, vous êtes bookés les gars ».
On dirait du Grandmaster Flash. En
complètement.
Fait.
Ah bah ouais. Pas passé loin de faire une carrière de rap. Hein. On était à deux doigts là.
Il avait deux voix possibles. Il a choisi la plus sombre.
C'est génial. Donc c'est vraiment l'équivalent du Hit Machine quoi. C'est trop drôle quoi.
Bah n'empêche, Pretty Hate Machine devient disque d'or. Les concerts sont chaotiques. À Boston, les fans arrachent les sièges pour créer leur propre fosse pour pouvoir pogoter. Mais Reznor ne s'entend pas très bien avec les gars de TVT, son label, qu'il qualifie de, je cite, « collection of shit », un beau tas de merde. Résultat, il décide d'enregistrer son prochain disque dans leur dos, en loose day.
C'est génial, et c'est une petite vendetta industrielle, parce qu'à ce moment-là, Nine Inch Nails est toujours sous contrat avec TVT, c'est ça ?
Tout à fait, et tu vas adorer la suite, puisque en 1992, Reznor enregistre donc « Broken » clandestinement avec la complicité du label Interscope. L'EP démarre à la 7e place du Billboard, devient disque de platine et gagne un Grammy. L'industrie comprend alors que ce type va être énorme.
J'ai souvenir que dans le doc The Defiant Ones, sur Interscope, il y a Jimmy Iovine qui raconte que quand il essaye de débaucher Trent Reznor, il va chez lui dans son studio et dit « mais j'avais l'impression d'avoir un rendez-vous avec avec Satan ou un vampire, il y avait des bougies, tout était dans l'ombre et tout. » Et ouais, après,
j'adore Dracula de Coppola.
C'est ça, ouais.
C'est clair. Dracula.
Bon, en attendant, là, ça y est, on n'est plus dans le rap, on a le son.
Non,
de
il l'a choisi. Il a choisi, ouais.
Alors, Reznor, il vend. Reznor, il choque, il gagne des Grammys. Et il décide qu'il n'est toujours pas assez malheureux, en fait.
C'est là qu'on en arrive au chef-d'œuvre. Nous sommes donc en 1994. Reznor lutte contre une dépression sévère et une grave anxiété sociale. C'est le moment qu'il choisit pour concevoir un projet totalement conceptuel, presque narratif. L'histoire de la chute d'un homme, lui ou son double, qui descend progressivement vers son point de rupture suicidaire. En gros, il va mal, mais il veut aller encore plus mal pour travailler dessus. C'est très 90s comme concept.
Bonne ambiance.
Autre autre détail significatif, dans les mois qui précèdent l'écriture, l'industrie tente de le faire rentrer dans une case rock alternatif bankable. Ça l'étouffe, il a besoin d'un espace pour faire un disque pas calibré, pas vendable, pas aimable, pas agréable. Et il va terriblement bien réussir dans cette entreprise.
Bon, ça c'est pour la genèse psychologique, mais comment ce disque il devient culte ? Parce que sur le papier, un album de 65 minutes qui parle d'angoisse, de haine de soi, du meurtre de Dieu, a priori c'est pas censé faire des millions de ventes ça, Olivia.
Il faut comprendre ce que représente cet album au moment de sa sortie, le 8 mars 1994. On est en plein âge d'or du rock dépressif. Nirvana est au sommet, Pearl Jam aussi, le hip-hop devient politique et rageur. Reznor n'arrive pas en contradiction avec l'époque, il arrive en condensation. Le biographe Tommy Udo formule ça parfaitement.
The Downward Spiral a fait de Reznor un Dostoïevski du rock, un homme qui descend dans l'underground émotionnel pour en ramener un album.
C'était Closer de Nine Inch Nails sur Radio Cassette.
Dès sa sortie, c'est un énorme carton. L'album débute à la deuxième place au Billboard 200 avec 119 000 ventes la première semaine. Aujourd'hui, ça semble pas fou, mais en 1994, pour un disque aussi sombre, c'est du jamais vu. Et ça ne s'arrête pas. L'album sera certifié quadruple disque de platine aux États-Unis avec plus de 5 millions de copies vendues dans le monde. Et surtout, il installe Nin comme une force culturelle. Reznor sera même nommé dans la liste des 25 Américains les plus influents par le Time Magazine en 1997.
Pourtant, c'est très vulgaire, c'est une musique qui n'est pas du tout accessible. C'est étonnant quand même qu'il se passe ça. Quoi.
Bah c'est justement ça. On passe de musicien indus post-goth à figure culturelle majeure des États-Unis.
J'avais aucune idée que le succès était aussi énorme à l'époque.
C'est clair.
Deuxième du Billboard 200 avec cette musique-là, c'est fou.
Alors, les critiques, elles réagissent comment à ça ?
Eh bien, elles ont fait exactement ce que l'on attendait des critiques des années 90, à la fois fascinées, agacées, snobs, effrayées, mais tout à fait conscientes d'être face à un truc important. Jonathan Gold dans Rolling Stone compare l'album à de la littérature cyberpunk, ce qui est très juste, Reznor étant l'incarnation physique du cyberpunk, dixit son biographe. Le NME, lui, colle un sévère 4 sur 10, trouvant tout ça trop adolescent, et Stereo Review évoque, je cite, du bruit sans mélodie. Les conservateurs, bien sûr, hurlent au blasphème, la polémique gonfle autour de Big Man with a Gun, taxé de violence sexuelle explicite.
Tu fais donc la tête, Fanny.
Elle n'aime pas les conservateurs, Fanny.
Non, mais Big Man with a Gun, c'est quand même le pays des guns.
Et des Big Man,
du premier avènement des États-Unis. Alors après la sortie de The Downward Spiral, Nine Inch Nails part en tournée.
De 1994 à 1996, Nin de n'avoir et à écouter le prolongement scénique du malaise de l'album avec beaucoup d'intensité. Le Self-Destruct Tour n'est plus juste une tournée, c'est l'extension vivante de l'album, un rituel de destruction soigneusement orchestré sur scène.
À côté, Limp Bizkit, c'est du pipi de chat.
Un cauchemar esthétique parfaitement calculé. Peu de lumière, des tableaux super sombres, des vidéos projetées ultra violentes. Le succès est immense et finit par reconfigurer le statut du groupe qui, en quelques mois, passe de petites salles à des stades partout dans le monde.
Et c'est pendant cette tournée qu'arrive le moment culte. On est à Woodstock en 94.
Nous sommes donc le 13 août 1994. Il pleut comme jamais. 350 000 personnes pataugent dans la boue. Les groupes se succèdent, tout propres et bien au sec. Nine Inch Nails arrive backstage. Trent Reznor observe alors le public complètement trempé. Il ne comprend pas pourquoi lui devrait rester à l'abri. Il décide alors de se rouler dans la boue. Le groupe monte sur scène, ressemblant au public des zombies couverts de gadoue. Au milieu de March of the Pigs, Reznor s'arrête et lâche une bombe. Doesn't it make you feel better? No, they can all sleep soundly. And all of you miserable muddy fuckheads are all right.
Fanny, on la retient plus, elle vient de casser le studio. Reviens, Fanny, t'as peur, reviens.
Trouvez-moi une flaque de boue, vite. All you miserable, muddy fuckheads, doesn't it make you feel better? Une insulte qui sonne comme un cri d'amour. Il ne dit pas « je suis au-dessus de vous », il dit « on est tous dans la même merde, ensemble ». En refusant d'être une star inaccessible, Reznor crée le moment du festival. La séquence est diffusée devant 24 millions de téléspectateurs. Nine Inch Nails vole le show et remporte un Grammy Award. Cette image hallucinante de Reznor détrempé, hurlant dans son micro, propulse Nin dans une nouvelle dimension.
Alors, ce disque, il est controversé, il est brillant et traumatisant à tout point de vue, pour devenir tout à fait iconique. Mais qu'est-ce qu'il en reste vraiment aujourd'hui ?
Il reste un disque qui a marqué nos adolescences, qu'on le veuille ou non. Un disque qui rappelle cette fois, souvent la première, où l'on a compris que la musique pouvait exprimer quelque chose de laid, de brut, de vrai. C'est un album qui a profondément influencé tout le rock alternatif et qui a fait de Trent Reznor l'un des artistes les plus influents de sa génération. Rarement un artiste sera littéralement mis en danger à ce point, et c'est encore plus rare que ce disque devienne un best-seller. David Bowie compare l'impact de Reznor à celui du Velvet Underground. Bob Ezrin, producteur de Pink Floyd, Kiss, Alice Cooper et de Peter Gabriel, décrit Reznor en 2007 comme, je cite, « un véritable visionnaire qui a influencé de jeunes artistes dans son attitude sans compromis ». Mais l'héritage le plus inattendu de The Downward Spiral viendra d'un homme en noir d'une toute autre génération. En 2002, Johnny Cash enregistre sa version de Hurt pour son album American Four, produit par Rick Rubin. Le clip réalisé par Mark Romanek en 2003 montre Cash à 71 ans, visiblement fragile, dans sa maison du Tennessee et dans le musée abandonné dédié à sa carrière. La vidéo est élue meilleur clip de tous les temps par les professionnels de l'industrie. Quelques mois après sa sortie, Cash décède, transformant Hurt en testament musical. Reznor lui-même déclare « cette chanson n'est plus la mienne ». Pour toute une génération, Hurt devient définitivement celle de Johnny Cash. Et c'est cette version qu'on écoute maintenant. You stay the hell away from me, you hear? I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts. I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here.
What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
Eh ben merci Olivia, super version, non ?
Ouais,
qu'est-ce que t'en penses, Greg, toi ?
Ben j'étais, moi j'avoue que j'étais un peu vénère quand c'est sorti, parce que tout le monde disait ah, Johnny Cash, Johnny Cash, et pour moi c'était Nine Inch Nails cette chanson, c'était pas Johnny Cash. Il y a plein de gens qui ont découvert ça.
Comme moi. Comme moi, j'ai découvert ça m'énerve, avec lui.
Ça m'énerve, Manu.
Bah ouais, je comprends. Je comprends parce que c'est comme Fanny qui a découvert Under the Bridge avec les Hotels.
Ça balance. Combien de gens ont découvert Alléluia avec Buckley et pas avec Leonard
Exactement.
Cohen
ouais,
On arrête de pitcher là.
Je note que c'est pas Closer et son I Wanna Fuck You Like an Animal qu'il a repris. Hein. C'est une autre ambiance quand même.
Exactement. Et ben moi, je dis franchement chapeau à Rick Rubin dans cette histoire parce que au départ, personne n'était chaud pour enregistrer cette chanson. Johnny Cash lui dit au départ c'est pas mon style, c'est pas ma façon de faire.
Il dit style Johnny Cash. Mon style avec un tréma sur le i.
Et Rubin, lui, il insiste, il dit à Cash, lis les paroles, laisse-les infuser. Et au final, eh ben, la chanson c'est la plus emblématique de la fin de carrière de Johnny Cash. C'est vraiment un testament musical qui
c'est
redonne.
Dur ça pour Johnny Cash aussi. Le gars, il a une carrière de zinzin et on se rappelle d'une chanson qu'il a pas écrite.
C'est clair.
Ouais, mais en même temps, cette chanson, tu peux la voir vraiment comme un testament, comme une relecture de sa vie, quoi.
Citez-moi une autre chanson de Johnny Cash.
I Walk the Line.
Ring ok, of d'accord, ça va. Ok, ça va. Manu, on l'a pas entendu là-dessus.
Non, mais alors moi, je voulais dire moralité, faut toujours écouter le producteur parce que c'est lui qui a raison, ok. Alors bon, maintenant qu'on a parlé de l'impact et de son héritage, merci Olivia. Greg, tu vas nous raconter le making of de l'album.
Oui, on va essayer de détailler tout ça. Déjà, Nine Inch Nails, c'est quand même un groupe spécial au niveau du son parce que c'est un peu expérimental, c'est pas forcément accessible, ça peut être très très agressif. Et puis des fois c'est hyper soft, donc c'est un peu dérangeant, c'est déstabilisant. C'est vrai aussi que c'est un des groupes de rock industriel le plus connu, mis à part Marilyn Manson, mais c'est comme c'est un peu le bébé. Bon, voilà, ça m'énerve. Bref, Trent Reznor, lui, il a pas tout inventé. C'est pas lui qui a inventé le rock industriel. Remettons donc les pendules à l'heure. Qu'est-ce que c'est que la musique indus? C'est conceptualisé vers 75 en Angleterre, notamment avec le groupe Throbbing Gristle qui va créer le label Industrial Records. D'où le nom, c'est quand même dingue cette histoire. En gros, bah, c'est de la musique, vous l'avez un peu compris, hein, c'est de la musique qui va utiliser des sons électroniques, un peu agressifs, forcément un peu répétitifs, inspirés par les machines industrielles. Forcément, il faut que ça soit un peu dark, il faut que ça fasse un peu flipper, il faut qu'il fasse gris et qu'il y ait des friches industrielles, tu vois, c'est ça l'ambiance.
Ouais,
quoi,
l'ambiance.
Tu vois. Ça vient pas de nulle part non plus, vous vous en doutez, il y a plein de racines, la musique concrète, le post-punk, le krautrock, Kraftwerk, l'électronique, le punk et puis la techno qui viendra s'incorporer un petit peu plus tard là-dedans. Je vous fais écouter un petit medley de groupes qui datent d'avant le premier album de Nine Inch Nails. Là, on est en 78, hein. Robin Grissom.
C'est génial, quoi. C'est vraiment du proto-punk.
Proto-indus, j'allais dire.
J'adore.
Vous aviez envie de dire proto, hein.
Ouais.
Skinny Puppy, 1984. Ministry 1988.
accrochez-vous.
Oh là là.
Vous connaissiez tout ça ou pas, vous ?
De nom, mais c'est mortel, quoi, c'est génial.
De nom.
Non, mais c'est vrai que quand t'entends ça, tu te dis, bon, bah, en fait, ça s'inscrit vraiment dans la même veine.
Ouais.
La différence, c'est que Trent, lui, ce qu'il souhaite faire de cette musique, c'est vraiment la pousser, la propulser à grande échelle, et parce que ça reste un peu confidentiel. C'est vrai que finalement, il y a beaucoup de groupes européens. En fait, lui, il va l'américaniser, c'est-à-dire le rendre.
Le mixer ça avec Wham.
le mixer avec Wham, et puis le rendre vraiment bigger than life. Oui, j'ai vraiment dit ça.
Alors Greg, comment Reznor il s'y prend concrètement pour enregistrer cet album? Parce que maintenant qu'il a signé chez Interscope, en fait il a les moyens de se faire plaisir et de prendre plein de matos, non?
Ouais, bah c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va carrément créer le home studio le plus cher de l'histoire. Alors ouais. Le paradoxe, c'est que Nine Inch Nails, il pousse vraiment une image anticommerciale. Pourtant, il a envie d'être aussi connu que Kiss et il commence à l'être. Et le pire, c'est que pour vendre de l'anticommercial, eh ben, il faut quand même un paquet de pognon. Et il se trouve qu'il y en a déjà un paquet. Déjà, il loue cette fameuse baraque dont on a parlé de Sharon Tate. Elle est, j'ai regardé où elle était. Elle est au-dessus de Beverly Hills. Hein. Donc, niveau dark, les collines de Beverly Hills, c'est pas non plus.
On peut juste rappeler rapidement l'histoire de Sharon Tate très, très rapidement.
Vas-y.
Bah, juste qu'elle a été assassinée par Charles Manson.
Exactement.
Hein, dans cette maison-là. Ouais. Précisément dans les années 70, et que le gars se dit c'est une bonne idée de louer la baraque où il y a eu un homicide.
Ouais, c'est l'un des événements.
Triple homicide, puis en plus c'est dégueulasse.
Pas triple, il y a eu beaucoup plus de meurtres que ça. Complètement glauque, avec pigs écrit en lettres de sang sur les murs, et Sharon Tate était enceinte de 8 mois au moment du meurtre. Donc c'est vraiment un des épisodes les plus traumatiques de la fin de l'ère hippie aux États-Unis.
Ouais,
vous avez bien cassé l'ambiance, les amis. Non, mais pour le coup, ça c'est dark. Après, c'est vrai que j'imagine que quand il sort acheter à manger, t'es quand même sur les collines de Beverly Hills, quoi, tu vois. Bon, bref. Il va donc acheter énormément de matos et il va installer un véritable studio pro. Hein. Moi, j'ai regardé le matos en guise de home studio. Déjà, il achète une méga console. 56 pistes, je sais pas si vous voyez, c'est plus grand que votre appartement.
Nous, on a que 4 pistes sur notre enregistreur là pour le podcast.
Il a deux enregistreurs à bande Studer 24 pistes, ça c'est pareil, c'est gros comme deux gros cheminées, quoi, tu vois. Donc déjà, il faut un petit peu de place, et puis surtout, il a le premier Pro Tools sur un Mac, ça devait coûter cher. En plus de ça, il achète plein de synthés, forcément. Il y en a déjà, hein, des mini Moog, du Prophet, de Oberheim, ARP, des guitares, des micros, des boîtes à rythme, des séquenceurs, un sampler, et l'original Mellotron. C'est un instrument avec un clavier qui balance des samples sur bande, mais c'est un peu le premier sampleur de l'histoire, et ce truc-là appartenait à John Lennon, et c'est le fameux Jimmy Iovine d'Interscope qui lui a prêté. Bon, en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de matos et qu'il y a un max de pognon.
T'as dû kiffer à faire cette chronique, je pense.
C'est presque trop, en fait. C'est ça le problème avec Nine Inch Nails, c'est que c'est toujours trop. T'en as un peu...
Mais surtout, on reste underground.
Oui.
On a $1 million de matos, mais on reste...
Je pense qu'on n'est pas loin du million. Ah. Donc, du matos très pro. En revanche, comme c'est un home studio, ça, c'est la petite histoire. Hein. Il y avait des petits problèmes électriques qui rendaient les choses parfois pénibles. Des problèmes de masse qui font des buzz, ça peut nous arriver, nous aussi, en podcast, mais voilà, ça n'empêche pas le succès, c'est ça qu'il faut se dire. Et puis, il y a cette fameuse histoire du chien de Trent qui bouffait les fils de la console.
C'est vrai.
Vous faites ce que vous voulez de cette anecdote potentiellement fausse.
Moi, j'ai envie d'y croire.
Alors, pour l'aider dans ce projet, Trent, il s'est entouré. C'est qui la Dream Team autour de Reznor pour ce disque?
Ouais, bah c'est vrai qu'on nous l'a vendu un peu comme un vampire qui travaille tout seul, un peu comme Prince. Et c'est ça l'autre paradoxe, c'est qu'en fait, il n'est pas tout seul. Il y a des brutes autour de lui. Il y a Flood à la co-réalisation, on en a déjà parlé. C'est celui qui avait fait Violator.
De Depeche Mode. Ouais.
Exactement. Il a aussi bossé avec New Order, Ministry, qu'on a écouté un petit peu avant. Et puis aussi... U2, il a bossé également sur le premier album de Nine Inch Nails. Bref, il connaît bien le délire. Il y a aussi des musiciens, Stephen Perkins, le batteur de Jane's Addiction, Adrian Belew, qui est un guitariste qui a joué avec Zappa, Bowie, King Crimson, Talking Heads. Bon, c'est quand même pas mal. Et puis, au son, on va avoir Alan Mulder et Steve Bevan qui vont enregistrer, mixer l'album. J'ai du mal à savoir qui faisait quoi, à quel moment. En tout cas, c'est ces deux gars qui bossent, qui sont là pendant l'enregistrement et aussi au mix. Sean, il a d'ailleurs déjà mixé Pretty Hate Machine avant. Il a fait la tournée, cette tournée-là. Donc, ça a vraiment lancé sa carrière, d'autant qu'il va récupérer Marilyn Manson derrière et qu'il mixera les trois premiers albums, rien que ça.
Il y a aussi le batteur Chris Vena qui a un projet musical qui s'appelle Tweaker que j'écoutais beaucoup au milieu des années 2000. Ouais, très bien.
Okay. Ouais, j'ai oublié de le citer en effet, Fanny. Lui, il est pas mal sur la programmation des machines. Il est batteur, donc il programme aussi des batteries. Et c'est aussi un chercheur de samples. C'est un mec qui va aller chercher des milliers de samples.
Anecdote, ouais, il en a chopé 3000. En fait, il se bouffait 5 films par jour parce qu'on lui avait demandé de chercher des samples dans des films d'horreur, des trucs comme ça.
Ouais.
Le gars, il en a bouffé à haute dose. Et derrière, Trent Reznor, il s'est fait une bibliothèque, mais énorme, avec tous les samples échantillonnés parfaitement, nettoyés et tout. Donc, sacrée équipe, effectivement. Mais alors, techniquement, comment ils bossent? J'ai lu quelque part qu'on est en 93, à une époque charnière entre l'analogique d'un côté et le numérique de l'autre.
Tout à fait, Manu. Tout à fait. Tu es bien renseigné. Mais c'est encore plus compliqué que ça. Ils enregistrent tout sur disque dur via Pro Tools. Ça, c'est vrai qu'il n'y a personne qui fait ça à l'époque. Ça va leur permettre de retoucher l'arrangement sans cesse. Ça, c'est un truc qui paraît vraiment évident aujourd'hui pour tous ceux qui font de la musique, de bouger des petits bouts pour bouger ton arrangement. Mais à l'époque, c'est vraiment nouveau. On imagine qu'avec avec Reznor, donner tous ses choix, ça va rendre le process encore plus long, mais ça lui permet de travailler comme ça. Voilà, à ce moment-là, le Pro Tools, l'enregistreur en fait numérique, hein, il ne sert qu'à enregistrer, on ne rajoute pas d'effets. Aujourd'hui, tu peux rajouter, tu peux jouer des synthés sur ton ordi, tu peux faire plein de choses. À cette époque-là, c'est vraiment juste un enregistreur qui remplace la bande. Une fois que l'arrangement est fixé, à ce moment-là, il le passe sur bande pour pouvoir aller le mixer. Mais parfois, il passe aussi des trucs sur bande pour faire des effets de bande, des ralentissements, des machins. Donc, ça fait en fait des allers-retours numériques, analogiques. Et ça, c'est quand même un gros délire.
Des gros trucs de geek, effectivement.
Ouais. C'est vraiment du geekos, quoi. Donc, tu l'as dit, oui, c'est une période charnière analogique, numérique. Mais ils auraient pu choisir une technique ou l'autre complètement. C'est pas ce qu'ils font. Ils mélangent les deux de manière encore plus expérimentale. Pour la méthode de sampling, ça va être un petit peu la même chose. Ils font un truc extraordinaire, c'est qu'ils enregistrent par exemple des pistes de batterie avec le batteur, et puis après ils vont reprendre soit des boucles, soit juste des frappes, des hits, pour les remettre dans un sampler et redonner un feeling électronique à une prise acoustique, et inversement proportionnel, et après tu repasses sur bande. Bon voilà, c'est une embrouille en tout cas.
C'est des ouf en fait.
Oui, c'est des ouf. Parfois c'est du pur sampling, par exemple sur Closer, le kick est samplé sur Nightclubbing de Iggy Pop de 77. Parfois, ils ont jusqu'à 4 sampleurs qui balancent des sons différents, qu'ils font tourner, qu'ils passent dans des effets à toucher tous les boutons en direct pour enregistrer sur disque dur. Cette technique, elle est aussi valable pour les guitares, les basses. Par exemple, t'as soit Trent, soit un guitariste qui joue pendant 20 minutes. Ils prennent le meilleur moment, ils le mettent en boucle, ils enregistrent, ils samplent, ils rassemblent, ils couchent sur disque dur. C'est le bazar. Je vous fais écouter justement... une petite piste de batterie pour comprendre comment est-ce que ils font ce composing de sampling. On entend une batterie acoustique avec en plus des samples industriels forcément. Hein. Mais attention, ça prend vite la tête, donc faut s'arrêter au bout d'un moment. Le son, en général, il est très distordu, pas que sur les guitares, mais sur les voix, les batteries, les synthés. La plupart du temps, c'est l'originalité du son qui va amorcer l'arrangement. Je vous fais aussi écouter les guitares qui ont un son pas banal pour l'époque, très très brillant. Voilà, des guitares, on n'a jamais eu ce son-là. Hein.
Ça prend la tête, ouais.
Ouais. Il y en a plein. Il y a 5-6 guitares qui sont enregistrées toujours avec le même process, quoi.
Et alors, et la voix de Reznor dans tout ça, parce que tu nous parles de machine, mais la voix, c'est quand même l'élément le plus important de l'album.
Tout à fait. Les voix sont enregistrées assez vite dans le processus pour avoir une structure pop, et c'est l'arrangement qui va tourner autour. Pour la voix, c'est l'approche opposée des instruments qui est privilégiée. Comme tout est très industriel et rendu mécanique par la montagne de machines, la voix, elle va prendre le contre-pied, elle va être le plus naturel possible pour avoir une émotion très humaine. et sous-posés à l'instru très très mécanique. D'ailleurs, la plupart du temps, ils prennent des prises complètes, c'est-à-dire qu'avec des petites erreurs, ils vont pas, pour le coup, ils font pas
plein. Ils vont pas faire du mot à mot, ils vont pas faire des phrases, quoi.
Contrairement à ce qu'ils font avec la musique, du coup, ça fait
un beau contraste, quoi.
Un beau contraste. Je vous fais écouter la voix de Trent en solo parce que, je trouve qu'il a une très belle voix et vous allez voir, c'est assez intéressant. Au début, il y a beaucoup d'effets. Disto et reverb. Et là, toute sèche la voix. I think he's losing it. Un peu tremblante. I wanna watch it come down. Don't like the look of it. Don't like the taste of it. Don't like the smell of it. I wanna watch it come down. All the pigs are all lined up. I give you all that you want. Take the skin and peel it back. Now doesn't it make you feel better? Bon, après, c'est y a des petits défauts, mais c'est quand même, ils chantent très très bien quand même, donc c'est...
Ouais, mais c'est ce qui rend le truc humain, justement, il faut les garder, bien sûr. Alors, et comment ça se passe, l'ambiance en studio? Parce que c'était quand même la maison où Sharon Tate a été assassinée, ça devait être quand même bien glauque, non?
Ah bah, j'imagine que ça devait être glauque, alors c'est souvent vendu...
Oh, regardez, j'ai trouvé un doigt,
C'est souvent vendu comme une grotte avec une grotte de vampires avec des instruments. C'est vrai qu'il y a sûrement de la drogue. On sait qu'il avait des problèmes d'addiction à ce moment-là. Il doit y avoir des trucs glauques, en effet. Mais moi, j'ai mis un petit bémol à ça parce que c'est quand même un endroit où il y a beaucoup de matos, beaucoup de pros et aussi pas mal d'exigences. Apparemment, Trent, lui, quand il veut chanter, c'est sur un coup de tête. Faut que le technicien il soit prêt tout de suite. Genre, si c'est pas prêt, il s'en va et puis il va faire autre chose, quoi. Et puis, les ingés, ils confient aussi que Trent, pour sortir la musique, il a besoin de se mettre dans un mood et qu'au bout d'un moment tout sort d'un coup et c'est pour ça qu'il faut être là au bon moment. Après, lui, il peut s'éteindre complètement et aller jouer à Zelda pendant 8 heures.
Donc faut être prêt à enregistrer, quoi. Les gars, ils n'en veulent pas. Alors Greg, tu nous as préparé un petit multitrack comme bouquet final. C'est quel morceau que tu as choisi?
Bah, j'ai fait celui que tu m'as demandé.
Ouais.
Emmanuel Trump, n'est-ce pas? Non, on a fait Closer.
Yes.
Alors ça commence par un petit sample de bruit de vinyle qu'on a tout le temps en fond. Et puis, on a le kick de Iggy Pop. On entend vraiment la boucle, le sample. Après, on a le reste de la batterie qui vient d'une R70. Pas commun. Et puis, la basse la plus reconnaissable de Nine Inch Nails. Un gros synthé. Selon moi, c'était un gros synthé. Et apparemment, ça vient d'une banque de sons qui leur a semblé, tu vois.
Ok.
Qui s'appelle A Poke in the Ear. Les voix, magnifiques. Help me. The only thing that works for me. Très belles harmonies. Help me get away from myself. I wanna. Il y a les fucks qui ont été retirés pour la version. Là, on a une vraie basse parce qu'on avait une basse synthé. Une vraie basse jouée. Puis il y a cette piste là de texture avec plein de synthé. Beaucoup de synthé. Alors avec Nine Inch Nails, le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses à diguer, donc là je On va sur
des couches, c'est des millions de couches sur un
ouais,
truc comme ça.
Ouais, ouais, alors t'as des samples, t'as des synthés, et puis en fait t'as beaucoup, beaucoup d'informations. Je sais pas si vous avez, j'imagine que vous êtes tombé dessus. Il y a un Wikipédia d'Nine Inch Nails.
Ah ouais.
Avec énormément d'infos, ce qui fait que sur chaque morceau tu peux trouver tous les multipistes,
oh là
parce
là.
Qu'ils étaient mis à la disposition pour faire des remixes, plus des listes de matos et des listes de samples que, enfin, il y a des vrais fans qui ont tout
t'as
digué.
T'as ouvert une porte de l'enfer là.
Ouais, alors faut pas trop y rester, hein, parce que tu peux vite t'y perdre dans le matos. Mais voilà, c'est quand même très intéressant. Et puis voilà, je trouve que ça a pas si mal vieilli en fait.
Non, là ce qu'on vient d'entendre, ça nous prouve juste que Closer, c'est quand même un des meilleurs morceaux du monde.
Ouais,
point.
Ouais.
Du monde.
Ouais, ouais.
Mieux que Jeff Buckley.
Ouais.
Oh.
Enfin, égal.
Mieux que Johnny Cash.
Égal.
Oui, oui.
Mieux que All Saints.
On fera la battle en fin d'émission. Bah, Greg, merci beaucoup pour
ces
explications.
Bravo.
Et ça m'a fait très plaisir de réécouter ce multipiste de ce morceau que j'adore. Alors,
il y a un truc plus que Ace of Base.
Ouais, je peux le dire ici. Oui. Mais il y a un truc que t'as pas dit, Greg. C'est au sujet du morceau Hurt. C'est la dernière chanson que Reznor a écrit pour l'album. Quand tout le reste, en fait, était déjà dans la boîte. Il l'enregistre en fait comme un titre bonus au studio A&M. Et là, truc exceptionnel, c'est Chris Vrenna qui joue vraiment de la batterie en live sur l'enregistrement. Alors que d'habitude, bah, Reznor, il fait tout lui-même, il sample et à fond. Et résultat, c'est devenu son morceau le plus intime, le plus personnel sur l'addiction, sur la solitude et le désespoir total.
Et le fun.
Oui, parce que donc effectivement c'est un morceau dans lequel il parle de son addiction à l'héroïne qui prend des proportions vraiment démesurées à cette époque-là.
Ah ouais, pourtant ça se contrôle bien ça logiquement, non? Enfin, je...
Il a aucune volonté, le gars.
Il a pas eu trop de morts dans les années 90 avec l'héro, pas
non,
trop.
Non, je crois pas.
Bon, j'espère que on n'a pas trop plombé l'ambiance. Alors comment je vais faire une transition après ça. Donc à toi Fanny, parlons maintenant de cette pochette qui donne des frissons rien qu'en la regardant. Alors ça vient d'où ce truc?
Alors peut-être que les frissons sont dus au fait qu'on est ici face à une véritable œuvre d'art, qui sait. La pochette de Downward Spiral, on la doit au plasticien britannique Russell Mills, un ex-enseignant dans de grandes écoles d'art, qui a aussi bussé pour d'autres musiciens comme Brian Eno, Cocteau Twins ou mon chouchou David Sylvian. Tout est parti d'un coup de fil surréaliste. Russell Mills est dans son cottage en Angleterre, tranquillou bilou, quand il se retrouve en conférence téléphonique avec Trent Reznor, Gary Talpas, le directeur artistique du groupe, et John Malm Jr., le manager en direct des États-Unis.
T'imagines, t'es chez toi, on t'appelle.
Ouais.
Hey
ouais.
Oh, comment ça va?
Ça va.
Je fais un Skype.
Tranquillou bilou.
Les trois lui expliquent qu'ils veulent lui commander un ensemble d'œuvres pour le prochain album de Nine Inch Nails, ainsi que pour les différents singles, albums de remix et tout le merchandising associé. Gary Talpas donne quelques indications. Il veut que l'imagerie domine, que la typographie soit minimale et que le design global soit épuré et sobre. Reznor enchaîne, lui, en décrivant les thèmes principaux du disque. Il lui balance des mots-clés, attrition, blessure, déclin, ça respire la joie de vivre. Ça colle à l'Amérique des années 90, entre corruption, désillusion collective et misère sociale cachée sous le vernis du rêve américain. Alors après un aller-retour express à Los Angeles pour conclure le deal, Russell Mills rentre dans son cottage et se met au travail. Au final, il va produire une trentaine de pièces.
Alors, on voit effectivement plusieurs de ses tableaux dans le livret. Et pour la pochette, il a peint une œuvre intitulée Wound. Est-ce que tu pourrais nous la décrire?
Oui, et ce titre est bien trouvé, je trouve, car wound, ça veut dire blessure en anglais. L'idée ici, c'est de retranscrire visuellement une sorte de douleur sourde, de malaise sous-jacent. Parce que l'Amérique, vue par Reznor, c'est ça. C'est une plaie qu'on cache sous des couches de mensonges. Greg va nous lire ce que Russell Mills écrit sur son site à propos de son processus de création.
Je réfléchissais depuis longtemps à la création d'œuvres explorant la notion de strate physique, matériel et conceptuel. Face à la puissance des textes et de la musique de l'album, il m'a semblé nécessaire de m'aventurer vers une imagerie en apparence contradictoire de la douleur et de la guérison. J'aspirais à concevoir des surfaces d'une beauté troublante qui laissera entrevoir, par intermittence, la crudité viscérale des blessures ouvertes. C'est dans cet esprit que j'ai réalisé Wound. Une pièce en technique mixte faite de plâtre, d'acrylique, de peinture à l'huile, métaux rouillés, insectes, papillons de nuit, de mon propre sang, de cire, vernis et bandages chirurgicaux, le tout sur panneaux de bois.
de son propre sang. C'est un truc de ouf, c'est un peu extrême là, non?
Ouais, alors ça peut sembler extrême, mais primo, ça colle pas mal au côté radical de Nine Inch Nails, et deuxio, dans l'art contemporain en Europe, il y a eu beaucoup plus de pratiques choc utilisant du sang et autres sécrétions corporelles qu'on ne le pense, notamment chez les actionnistes viennois. Ouais. C'est pas du tout un truc de sataniste ou un cas isolé. Donc pour Wound, le résultat, c'est une œuvre abstraite dans des tons gris-beige, avec un peu de rouille, à mi-chemin entre le mur décrépit et une plaie stylisée en train de cicatriser. Les textures sont organiques, décomposées. En dehors de sa très grande beauté plastique, je trouve que cette pochette marche toujours aujourd'hui parce qu'elle est intemporelle. Mills, il a capté l'essence de Nine Inch Nails, il a su mettre en image cette sorte de violence raffinée, de colère un peu intellectuelle. Et puis, avouons-le, on a rarement vu une pochette aussi tactile, on a envie de gratter le plâtre pour voir ce qui se cache en dessous. C'est un peu comme cet album, en fait. Plus tu creuses, plus ça fait mal.
C'est vrai.
Alors Reznor, il a déjà été visionnaire avec la pochette de The Downward Spiral, mais je crois que pour le clip de Closer, il a poussé le curseur encore plus loin et on a vraiment l'impression carrément d'aller visiter l'enfer en version steampunk.
Étonnant, hein, dis donc.
Mais ouais.
Avec Closer, le réalisateur Marc Romanek a tout simplement créé une œuvre visuelle tellement iconique que le MoMA l'a ajoutée à sa collection permanente, rien que ça.
Ah ouais.
Chaque plan est une référence, une provocation ou les deux. Tourné en avril 1994 dans les anciens studios de Charlie Chaplin à Los Angeles, c'est une sorte de cabinet de curiosité visuelle. L'idée de départ, c'est de donner l'impression de tomber sur un vieux film interdit qui aurait été tourné au siècle dernier chez un savant fou.
Ça marche bien, ça. Hein.
Totalement. Pour arriver à ça, ils ont fabriqué un décor de cinéma, pas très grand, avec une enfilade de pièces où tourner les différentes scènes. L'atmosphère et tous les détails à l'image sont assez dingues. D'ailleurs, j'invite les auditeurs qui n'ont pas vu le clip à faire pause sur l'épisode. Allez le voir et revenez, parce que sinon je vais tout vous divulgâcher dans la suite. Alors, niveau technique, ils ont filmé avec une vieille caméra à manivelle de 1919.
Ah ouais, bah c'est bien dans le délire, quoi.
Et un stock de pellicules périmées, volontairement granuleux, aux couleurs délavées. Romanek, qui s'est ensuite amusé à traîner la pellicule au sol, à la brûler, à sprayer de la laque dessus pour détériorer l'image.
Ah ouais.
Donc, visuellement, c'est vraiment... Enfin, il y a une patte. Ce clip, il est directement inspiré du court-métrage d'animation La rue des crocodiles, réalisé par les frères Quay, qui sont un peu des figures cultes de la scène underground. Romanek a répliqué leur atmosphère de cauchemar sinistre en y ajoutant une touche de sexe dark et beaucoup de citations artistiques. Ici, la frontière entre l'organique et le mécanique n'existe plus. On voit par exemple un métronome avec un œil collé sur un balancier, ça c'est la citation directe d'une sculpture de Man Ray. On voit aussi un énorme cœur branché de partout et qui bat en rythme avec la musique, ou une tête de cochon qui tourne comme une toupie infernale au sommet d'une machine en ferraille.
Ok, donc tout à l'heure on avait du vrai sang, là on a, j'imagine, une vraie tête de cochon, un vrai cœur qui font battre ou quelque chose comme ça.
Alors, le cœur, t'es pas loin,
c'est
une prothèse fabriquée par Screaming Matt George, qui est un génie des effets spéciaux, qui a notamment bossé sur Freddy les Griffes de la Nuit. Ce cœur, il est relié avec des pistons qui sont actionnés par trois mecs en arrière-plan, et les pulsations sont synchronisées avec le rythme de l'intro, là,
ouais, c'est ultra
le
stylé,
sample
ouais.
de Iggy Pop. Par contre, la tête de cochon, bah, c'est une vraie. Et il paraît qu'elle puait tellement que tout le monde était dégoûté sur le set. Faut dire que pour faire des économies, ils avaient acheté de la viande faisandée. Rien que de vous en parler moi-même, j'ai envie de gerber. Niveau viande d'ailleurs, on est servi. Car Romanek va rendre hommage au tableau Figure with Meat de Francis Bacon, qui nous montre une carcasse de bœuf découpée en deux et suspendue en l'air comme des ailes d'ange. Dans le clip de Closer, on trouve une reprise claire et nette de ce tableau, mais la liste ne s'arrête pas là. Le mood board puise massivement dans le surréalisme, l'expressionnisme, la photo érotique, les films d'horreur et j'en passe. En vrac, parce que je peux pas tout citer, mais on a des refs aux photos vintage de James Van Der Zee, aux peintures de George Tucker, Georgia O'Keeffe, Tom Vesselman. La scène SM avec Trent menotté et les yeux bandés, c'est un autre clin d'œil à Man Ray. La femme chauve à poil avec deux œufs posés au bout des doigts, elle provient d'un tableau de l'Autrichien Rudolf Hausner, qui était le fondateur du réalisme fantastique. Le plan où Trent, avec ses lunettes d'aviateur, se fait souffler de l'air comprimé dans la bouche, ça, c'est en ref au film L'échelle de Jacob, d'Adrian Lyne.
Okay.
Et je pourrais continuer comme ça pendant une heure, tellement il y a de choses. Enfin, c'est un peu comme Greg, une fois que tu commences tu mets le doigt dedans, voilà. Faute de temps, je vous fais la version Fast and Furious.
Donc si je résume bien, c'est un clip qui cite toutes ses sources en mode mémoire universitaire en fait.
Ouais, c'est un peu ça. Il y a même une référence cachée à Mary Poppins.
Mais non.
Figurez-vous.
Ça c'est étonnant.
Alors la scène où Reznor flotte en l'air, là, suspendu par des fils invisibles, Mark Romanek dit dans le making-of qu'on peut voir sur YouTube que ça vient sans doute de ses souvenirs d'enfance quand il regardait Mary Poppins et que lui il rêvait aussi de pouvoir voler. J'ai gardé par ailleurs la meilleure ref pour la fin parce qu'il y a un autre artiste en plus des frères Quay dont le travail est pillé à de nombreux endroits. Je pense qu'il y a des dizaines de ces photos qui ont été reconstituées dans certains plans du clip, et cet artiste c'est l'américain Joel Peter Witkin que j'ai eu la chance d'interviewer et d'exposer à plusieurs reprises quand je bossais en galerie.
Madame.
Donc c'est simple, dans le clip de Closer, tout ce qui est petit singe crucifié, nature morte avec le visage de Trent cousu sur un mannequin, femme chauve avec un masque crucifié, les jumeaux reliés par la tête, le crâne de taureau et j'en oublie sûrement, tout ça, vous le trouvez dans les photos de Joel Peter Witkin. C'est un artiste inclassable et génial qui a exploré tous les tabous possibles liés à la religion, au sexe et à la mort. Son truc, c'est de montrer qu'il y a de la beauté partout, même dans l'horreur. Sans Witkin, Mark Romanek serait clairement passé à côté de certains plans les plus impactants de son clip.
Et alors avec toutes les scènes ultra choquantes que tu viens de nous décrire, c'est pas étonnant que MTV ait décidé de censurer tout ou partie du clip en fait.
Ouais, ils ont taillé dedans mais version massacre à la tronçonneuse.
Ah ouais,
les
mais
gars.
Comment ils font ?
Y a tellement de choses qui ont été retirées, tellement de choses qui ont été censurées qu'ils ont inséré à la place des écrans avec écrit dessus scène manquante.
Ouais. Ah ouais,
tout simplement.
Non mais ça c'est Marc Romanek qui l'a fait, c'est pas MTV qui a rajouté un truc.
En fait, ils ont pris le parti, ils se sont dit on va y aller franco parce que de toute façon ce truc ne passera jamais sur ça sera trop trash, ça passera jamais sur MTV. Donc on met tous les trucs les plus dégueux qu'on veut dedans. Et finalement MTV il a quand même voulu le diffuser, donc ils ont censuré massivement. Donc MTV diffuse massivement cette vidéo édulcorée et 10 ans plus tard en 2006, BH1 Classic l'a élu meilleur clip de tous les temps. En 2025, ce clip il fait toujours autant flipper et réfléchir. Pas mal pour un truc tourné en 4 jours avec un singe et un cœur en plastique. D'ailleurs, je précise que le petit singe n'a pas été maltraité sur le plateau. Il y avait un membre de la SPA américaine pour s'en assurer. Entre les prises, il mangeait des bananes et il a été mieux payé que certains membres de l'équipe, selon Mark Romanek.
Que le cochon, notamment.
Ah, quelle star ce petit singe!
Il était consentant et il a beaucoup aimé. C'est incroyable cette anecdote. Merci Fanny pour ta chronique hyper documentée. Il faudrait que tu nous fasses des petites stories avec toutes les photos.
Ça va être censuré par Instagram malheureusement.
Ah, bah, on pourra pas.
Est-ce que tout a été légué à Marilyn Manson comme ça a été fait
pour
le son?
Mais oui, il a pompé de ouf là-dessus. Sur le clip.
Bah, j'ai l'impression qu'on lui a filé un peu un truc clé en main, hein, Manson, tout Trent Reznor sur un plateau d'argent pour.
Bah, dès lors que Reznor est derrière le début de carrière de Manson, il suit juste.
Il fait ce qu'on lui dit de faire, quoi.
Je suis pas sûr que ce soit un gars comme ça.
Bon, je vous invite à écouter l'épisode qu'on a fait dédié à Antichrist Superstar. Alors. Moi, j'ai une autre anecdote sur ce clip. Figurez-vous que David Fincher, il va utiliser le remix de Closer pour le générique du film Seven. Ce générique qui va d'ailleurs devenir une référence absolue du cinéma des années 90. C'est aussi le début d'une vraie bromance entre Trent Reznor d'un côté et David Fincher de l'autre. Parce qu'après ça, ils vont enchaîner avec une pub Levi's en 96, puis des années plus tard avec The Social Network, dont il va faire Trent Reznor va faire la BO.
Qui était le film sur les débuts de Facebook, pour rappel. Ouais.
Tout à fait, et qui va cartonner, il va même choper un Oscar avec cette BO. Bref, le clip de Closer, c'est pas juste une vidéo choc, c'est aussi un truc qui a lancé l'une des plus belles collaborations entre un musicien et un réalisateur de Hollywood. Merci Fanny pour cette super chronique.
Bah de rien.
Alors voilà, on a fait la story, le making of et l'artwork de The Downward Spiral. C'est quand même un des disques les plus torturés, les plus marquants des années 90. C'est l'heure maintenant de faire le bilan et de me donner votre avis. Alors Olivia, toi t'en as pensé quoi de cet album?
Alors je pense qu'aujourd'hui moi je suis pas capable de tout réécouter.
Ouais.
Il y a certains morceaux indéniables j'aime beaucoup et ça, mais j'avoue qu'il y en a d'autres qui me mettent quand même un peu
qui te vrillent trop les oreilles quoi.
Voilà, exactement.
Non mais c'est vrai hein. C'est pas facile à écouter. Non, honnêtement, c'est pas facile.
Ça nécessite un vrai effort. Et c'est vrai que parfois, on n'a pas toujours l'énergie de se plonger dans cette musique-là. Après, aujourd'hui, avec toute l'histoire qu'on a pu déplier autour de Trent Reznor et tout, je sais pas comment dire, mais je suis assez fascinée par ce destin parce qu'il y est allé vraiment.
Le mec, il est jusqu'au boutiste. Hein, quand
même, voilà,
hein.
C'est ça. C'est que l'étape d'après, c'était effectivement le suicide. Donc ouais, c'est assez, enfin voilà, c'est une déflagration et on peut être que sensible à cet acte artistique qui, dans le début des années 90, est quand même hyper radical.
Tu m'étonnes, ouais. Ouais. Et t'as plu d'écouter l'album.
Ça m'a plu, mais voilà, tout n'est pas.
C'est dense.
C'est dense, c'est intense, exactement.
Greg, toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Donc toi, tu le connaissais bien, fan de la première heure. C'était quoi de le réécouter ?
Ouais, alors, mais j'avais déjà du mal à l'écouter à l'époque, hein, cet album. Hein. C'était assez difficile. J'aimais bien les moments justement de détente où quand t'avais le petit piano et quand on entendait bien la voix de Trent, parce qu'en vrai, il avait quand même une super voix. Moi, ça faisait longtemps que je l'avais pas réécouté cet album parce que j'avais
une voix incroyable. Ouais.
J'avais souvenir d'albums difficiles à écouter, mais en fait, j'avais quand même toutes les chansons en tête. Ça m'a plu de me replonger dedans. Et là, ce qui me marque surtout, c'est en fait quand on parle de cette époque, maintenant ça paraît un petit peu loin, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde génère de la musique avec en appuyant sur un bouton, genre même si t'es ancien ministre.
On l'embrasse, on sait qui nous écoute.
Et du coup, là, il y a tout cet artisanat à la fois du son et de l'image aussi qui fait que tu dis bah, c'était quand même fort. Et puis voilà, c'est le mot artisanat qui me revient, moi, et voilà, je pense que c'est quand même une œuvre importante, quoi.
Bah, je pense que t'as bien kiffé, c'est quand même t'as un génie visionnaire en studio.
Ouais.
Oui, le mec, il est complètement addict et donc il fait une musique malade et sombre au possible. Mais c'est dingue la claque sonore que c'est, quoi.
Je pense pas qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'artistes qui ont encore les moyens de mettre
l'époque,
tout ça en œuvre.
L'époque le permettrait pas.
Ouais, ah bah sûr. Non.
Les moyens
non,
de mettre tout ça en œuvre pour faire cet artisanat aussi avancé et poussé.
T'as un million
poussé,
de matos,
ouais.
T'as
ouais,
MTV ouais, qui dit on y va quand même, même si ouais, tout est choquant. Aujourd'hui, ce serait.
Mais ça, c'est un délire des 90s parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de thunes
bien
à
sûr,
l'époque.
Oui, c'est ça aussi. Hein. C'est ça.
Quand on a fait Radiohead, les Red Hot, on a eu plein qui sont partis se mettre en autarcie sur une île dans un truc.
Ouais, c'est très radical. C'est sûr.
C'est clair. Toi, Fanny, qu'est-ce que c'était d'écouter Nine Inch Nails ? T'as kiffé ? C'était une belle expérience pour toi ?
J'ai un peu le même avis que Greg. C'est-à-dire que dès que ça devient du piano ambiante,
ouais,
on aime
beaucoup
bien,
plus calme et qu'on entend la voix de Trent, j'adore. Le reste du disque, j'ai l'impression de me faire râper les oreilles à la perceuse, quoi. Enfin,
t'as plus l'indus, quoi. T'as changé.
Ouais, c'est. Non, mais c'est difficile d'écouter les morceaux les plus vénères. En fait, je pense que c'est taillé pour le live. J'imagine la folie que ça a dû être ce Woodstock 94,
ah bah,
effectivement,
oui,
et même cette tournée qui a suivi, parce que les morceaux les plus agressifs, tu te dis ça en live, ça doit être fou à vivre et tout. C'est juste, c'est difficile de les transposer, de les écouter dans ton casque quand t'es tranquille à la maison. Quand t'es tranquille à la maison, tu écoutes les deux derniers albums de Nine Inch Nails, Ghosts 5 et 6, qui sont quasiment que de l'ambiance, et là, c'est une merveille absolue. Voilà. Donc mon avis, c'est ça, c'est que Nine Inch Nails, moi, je pioche dedans
oui,
forcément les choses que je préfère, et les chansons que j'adorais à l'époque, qui sont bah, Hurt, Closer et Piggy, c'est les trois de l'album que je continue d'écouter en boucle
c'est
aujourd'hui,
3, ouais.
Et le reste, c'est beaucoup plus dur d'accès, beaucoup plus dur, ouais. Mais il n'empêche que Nine Inch Nails, c'est un groupe... phénoménal et dans cette niche tellement dark, tellement radicale, arriver à ce niveau de succès mainstream, c'est hallucinant.
Ouais, ouais, ça,
c'est hallucinant.
C'est une pierre angulaire, hein, c'est un monument, ce disque, il fait date. Moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que j'ai compris que c'était un chaînon manquant entre, par exemple, Depeche Mode qui avait sorti Violator 4 années plus tôt, et puis ce qui va arriver quelques années plus tard avec Antichrist Superstar. Et je trouve ça génial, ce mélange de bruit blanc, parfois, de synthé, d'influence club ou ambiante. Je trouve que c'est complètement dingo, c'est hyper bien fait.
Ouais.
Moi, j'ai pris une très grosse claque parce que moi, j'avais écouté juste Closer en fait, et je connaissais vite fait Hurt. J'ai découvert vraiment tout l'univers de Nine Inch Nails en écoutant cet album. Ouais, c'est hyper dense, mais j'ai kiffé. Je l'écoutais sur du super matos et tu vois toutes les strates, tu sens que chaque son est brodé, c'est extrêmement fin, même des trucs qui te vont vriller les oreilles, c'est fait avec énormément de soin. Je trouve ça vraiment dingue. Et puis en plus, il y a vraiment ce côté hypnotique, avec des cassures de rythme. Ouais, moi j'ai pris une très très grosse claque, mais je pense que bah, c'est ce qu'on dit tous, c'est extrêmement dense.
Ouais.
C'est-à-dire que se taper l'album, les 65 minutes ouais, du début à la
crevé,
fin.
Tu sors, t'es crevé.
Tu fais la première chanson. Tu prends ta demi-journée derrière, sinon t'es mort quoi.
Déjà, tu te fais la première chanson non-stop, t'es déjà pas mal. Quoi.
Et quand en parallèle pour préparer l'épisode, tu tapes tous les documentaires qui existent sur Nine Inch Nails, et là, la seule chose que tu vois à l'image, c'est à quel point Trent Reznor ressemble à Rogue, le professeur de Harry Potter.
Évidemment.
C'est très très perturbant.
Évidemment.
C'est vrai, c'est vrai. Non, ça te donne envie d'aller faire un gros câlin, tu sais, aux marginaux de ton lycée qui à l'époque.
Je te comprends maintenant. Tu n'es plus seul. C'est clair, c'est clair. Non mais pour moi c'est vraiment une œuvre d'art conceptuel du début à la fin. Pour moi c'est comme tu vois un Kubrick comme un 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est vraiment hyper dense, hyper riche, je n'arrive
pas. Mais faut se mettre dedans quoi.
Faut se mettre dedans, tu peux pas le mater d'un bloc d'un seul, c'est t'es obligé de couper quoi.
Ou un Lynch ou un de ces trucs qui te prend à la gorge et tu sens que il se passe quelque chose mais que tu arrives pas à analyser à l'instant T.
Exactement. Et ce qui me fait plaisir c'est que je l'ai écouté une fois, de manière hyper attentive, je suis passé à côté de plein de trucs et je sais que je vais prendre un gros gros plaisir à y retourner, à y revenir, parce que tu sens qu'il y a de quoi gratter, comme sur la pochette, pour aller découvrir toutes les strates, toutes les influences, c'est quand même assez gueudin.
C'est beau ce que tu dis.
Ouais. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On avait envie de partager avec vous notre avis sur cet album avec le Cassette Crew, avec Fanny.
Yes.
Avec Greg Cook.
Yes.
Et Olivia.
Yeah.
Alors, chers auditeurs, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez soutenir l'émission en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et puis, appelez-nous maintenant sur notre répondeur téléphonique pour nous balancer une anecdote, un souvenir ou juste nous raconter votre descente aux enfers personnels.
Si vous êtes ce marginal du lycée, appelez-nous. On a envie de vous dire des mots d'amour.
Ça se passe au 01 89 16 75 31. On va écouter vos derniers messages dans un instant. Allez, on se quitte maintenant avec Closer, les petits chats. Gros bisous. Et cœur avec les doigts.
Bisous les corbeaux.
Bye
bye. Bye. I'm
Salut les radiocassettes. Alors moi je vous ai découvert tout récemment et j'ai retrouvé en fait une cassette de l'album No Code de Pearl Jam qui était pas à moi mais qui était à mon frère. Je suis retombé là-dessus et je me suis mis à écouter ça. Et d'un coup je suis retombé dans Pearl Jam, j'ai voulu écouter presque tout ce qu'ils ont fait. Et pour enquêter un peu sur savoir un peu ce qu'avait fait le groupe, en enquêtant sur Spotify notamment, je tombe sur votre podcast. Voilà, donc j'écoute l'épisode avec Pearl Jam et ensuite bah, je me suis tout enchaîné. J'ai pas encore fini, mais je binge, j'écoute à peu près tous les épisodes les uns à la suite des autres. Alors, et là, comme on est en décembre, je vous fais ma petite liste de Noël et j'aimerais bien qu'un jour vous parliez de ces albums, de ces groupes qui ont eu des longues carrières et puis qu'on a connus principalement chez nous avec des sortes de hits uniques. Alors qu'ils ont des longues carrières. Et donc, c'est l'album Top Thumper de Chumbawamba, l'album Your Woman de White Town et le fameux Dreamland de Robert Miles. Je ne suis pas certain que vous les ayez écoutés un jour, mais vous connaissez au moins un single de chacun de ces albums. Et voilà, ça sera un petit défi parce que je pense que ça va vous faire enquêter dans des endroits où vous n'êtes jamais allé. Voilà, voilà. Merci à vous. Continuez ce que vous faites comme vous faites. Des bisous.